Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h57, excellent réveil à tous, 6h57 sur RMC et RMC Story. On est ensemble jusqu'à 9h. Nous sommes le vendredi 22 mai, c'est bientôt le week-end et un week-end peut-être prolongé pour certains d'entre vous. Et il fera beau. Allez, on revient sur ces aides annoncées, carburant renforcé, plus 700 millions d'euros au total. Des nouvelles professions qui vont être soutenues, mais toujours pas de chèque généralisé. Et puis des professions qui se disent oubliées, les infirmiers, les taxis, les dépanneurs. Les réponses du gouvernement face à la crise énergétique, est-ce que vous estimez que c'était suffisant? On en débattra à 7h50 entre notre voix de droite, Charles Consigny, et notre voix de gauche, Cécile Duflot. Et puis, je vous attends, vous, au 32-16. Venez donc témoigner et nous dire au quotidien ce que cette crise du carburant a changé. Et si vous avez déjà demandé les aides, parce que moi, j'aimerais bien aussi savoir, derrière les effets d'annonce, combien véritablement ont été sur les sites, les guichets, les demandes, les démarches. Est-ce que vous avez fait ces démarches? Est-ce que vous avez commencé à voir la couleur, le début de la couleur d'une aide? Dites-nous au 32-16. Marine Le Pen, elle, réclame une baisse des taxes sur l'énergie. Elle dénonce des mesurettes du gouvernement. Elle s'insurge aussi sur le retour des ZFE parce que le Conseil constitutionnel hier a censuré l'annulation des ZFE, les ZFE qui sont donc réinstallés. Marine Le Pen est mon invitée pour un face-à-face exceptionnel ce matin. 30 minutes de questions, mes questions mais aussi les vôtres bien sûr. Vous nous appelez dès maintenant au 32-16 pour poser vos questions à Marine Le Pen. Vous pouvez aussi me les envoyer sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424. Et puis vous le savez, on vous couvre de cadeaux. Il n'y a plus que quelques jours pour gagner des cadeaux exceptionnels pour la Coupe du Monde. Il y a encore des télés, des maillots et même un chèque de 10 000 euros qui se cache derrière la sélection des joueurs. Une alerte d'ici 8 heures pour jouer à la liste des 26. Restez bien à l'écoute d'RMC. Il est 6h59, dans un instant le journal. Et tout de suite la météo, il continue à faire très beau, très chaud.
Ah, il va faire, oui, même de plus en plus chaud. Ce qu'on va vivre là, c'est vraiment exceptionnel pour un mois de mai. C'est du jamais vu avec des températures qui vont atteindre des sommets dans le ciel. J'ai pas grand chose à vous dire parce que c'est vraiment que du soleil, du ciel bleu sur tout le pays toute la journée. Et puis donc ces températures, alors déjà élevées ce matin, on atteint déjà les 17-18 degrés sur le sud-ouest. Cet après-midi, localement, on pourrait atteindre 35 degrés en Aquitaine. Il fera 33 degrés pour Bordeaux, Biarritz, 31 à La Rochelle, 30 à Lyon, à Nantes, 29 à Paris, 27 à Marseille, 26 à Lille et un petit 24 degrés à Nice, si je puis dire, là où il va faire le moins chaud. Et donc la chaleur qui va s'accentuer encore dans les prochains jours avec un pic lundi, qui devrait vraiment être la journée la plus chaude jamais vue pour un mois de mai.
Il est 7h, excellent réveil à tous, merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa, bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des aides prolongées et élargies mais toujours ciblées. Sébastien Lecornu a présenté le nouveau paquet du gouvernement pour soutenir l'activité face à la crise énergétique. En plein conflit au Moyen-Orient, 710 millions d'euros d'aides supplémentaires avec un effort demandé aux entreprises. Vous entendrez dans ce journal également le témoignage de l'homme qui a retrouvé au bord d'une route au Portugal deux enfants de nationalité française âgés de 4 et 5 ans, abandonnés par leur mère et son compagnon. Ils ont été interpellés hier et Lens, grand favori pour soulever la Coupe de France ce soir face à Nice, 21h sur RMC.
On n'a pas fini de subir, voilà les mots de Sébastien Lecornu.
En conférence de presse hier, le Premier ministre a détaillé les nouvelles aides du gouvernement, 710 millions d'euros, je vous le disais, pour soutenir l'activité face à un conflit au Moyen-Orient qui va durer. Le pays doit tourner, c'est ce que dit Sébastien Lecornu, contraint de s'adapter.
On va changer d'échelle, soit dans ce que nous mettons sur la table, quantitativement, soit aussi parce que nous étions plutôt partis pour annoncer des aides pour le mois de juin, mais c'est pas ce que nous allons faire. Là, désormais, il faut commencer à donner des perspectives à des pans entiers de l'économie, des perspectives aux Françaises et aux Français qui travaillent, et donc c'est non seulement une réflexion pour juin, pour juillet, pour août, et pour certains secteurs, jusqu'à l'automne.
Sonia Gobry, service politique RMC, nous rejoint. On va faire le point avec vous sur ces perspectives annoncées donc par le Premier ministre, à commencer par la reconduction des aides pour le secteur du bâtiment, les pêcheurs, les agriculteurs et les transports. Mais ce n'est pas tout, Sonia. D'autres professions vont être soutenues par le gouvernement.
Oui, certains fonctionnaires comme les AESH, les professeurs remplaçants, vont bénéficier d'une revalorisation de leurs indemnités kilométriques, 20 centimes par litre de carburant. Pareil pour les aides à domicile qui sont majoritairement des femmes à temps partiel, avec un salaire moyen moyen à 700 euros par mois. Elles pourront aussi demander l'aide aux grands rouleurs qui passe de 500 à 100 euros. Environ 3 millions de travailleurs modestes qui roulent beaucoup vont en bénéficier. Doublement aussi du plafond de la prime carburant de 300 à 600 euros. Le dispositif est simplifié, beaucoup moins de justificatifs à fournir pour les salariés, mais ça reste facultatif. Les entreprises sont libres de verser ou non cette aide défiscalisée.
Pas question en revanche d'ouvrir les vannes. Sonia, le Premier ministre veut garder le contrôle sur les finances de l'État.
Oui, Sébastien Lecornu avance sur une ligne de crête. Il faut aider davantage les travailleurs. Il le dit lui-même, on n'a pas fini de subir cette crise énergétique. Aider, oui, mais sans creuser le déficit déjà élevé. C'est pour ça que Sébastien Lecornu refuse toute baisse de fiscalité sur les carburants. Il se fixe une règle, chaque aide, chaque dépense devra être gagée, c'est-à-dire compensée par des économies. Pour l'instant, le gouvernement ne donne pas plus de détails, mais il prévient, pas question pour le gouvernement de faire des cadeaux bizarres au mois de mai qui se transforment en augmentation d'impôts à l'automne.
Une situation économique et un contexte international instable qui encourage les Français à bouder un peu plus. Le livret A, près de 1,3 milliard d'euros ont été retirés en avril au profit de produits d'épargne mieux rémunérateurs. C'est un record depuis 2009. Il est 7h03. Vous écoutez RMC. On en vient à l'interpellation de cette Française hier au Portugal. Une mère de famille originaire de Colmar soupçonnée avec son compagnon de maltraitance, mise en danger et d'abandon. Celui de ses deux jeunes enfants de 4 et 5 ans signalé disparu depuis une dizaine de jours par leur père à Colmar. Ils ont été retrouvés à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne mardi au bord d'une route repérée, Philippine Boulet, par un automobiliste.
Alexandre est au volant quand il aperçoit deux petits garçons, seuls, assis au bord d'une route nationale, alors il ralentit.
Je les ai vus venir vers moi, ils criaient, ils pleuraient. Ils étaient complètement déboussolés. J'étais très inquiet, alors je les ai fait monter dans ma voiture.
Il les conduit à la boulangerie familiale, prévient la gendarmerie, seulement les enfants parlent français. Sur place, personne ne les comprend. Alexandre appelle une amie bilingue pour traduire. Les garçons expliquent alors que leur mère et son compagnon les ont emmenés près d'un bois quelques heures plus tôt.
Ils ont raconté que leurs parents leur avaient bandé les yeux et leur avaient dit d'aller dans la forêt chercher un jouet. Et puis ils sont partis en les laissant là-bas. Et ça, ça m'a brisé le cœur.
Alexandre a rassuré et nourri les deux enfants avant que les gendarmes ne les prennent en charge. La justice française dit examiner, en lien avec les autorités judiciaires portugaises, les conditions de leur retour en France.
Une procédure judiciaire a été ouverte par les autorités portugaises afin de comprendre les circonstances de cet abandon. Les suites de ce vaste coup de filet en lien avec le périscolaire parisien, 3 des 16 personnes interpellées mercredi matin vont être présentées à un juge d'instruction aujourd'hui. 2 hommes et une femme soupçonnés de gestes à caractère sexuel présumés sur une vingtaine d'enfants. Les 13 autres gardés à vue dans ce dossier ont été relâchés. Ils sont depuis longtemps décrits comme les ennemis de nos enfants, les écrans. Et il y a bien des raisons à cela. C'est ce que nous dit un rapport de l'Observatoire français des drogues et tendances addictives publiée ce matin, une étude scientifique sur la santé physique et psychique des enfants et des jeunes adultes qui nous apprend un peu plus, Bérangère Bouquillon, sur les risques réels de l'exposition au numérique.
Oui, le danger ne vient pas tant du nombre d'heures passées sur un écran que de ce que l'on y fait. Le plus toxique pour le cerveau étant de passer d'une vidéo ou d'une application à une autre en moins de 20 secondes. Une fragmentation extrême de l'attention qui excite, favorise même des inflammations sanguines et tout ça sans qu'on ait besoin de bouger. Autre conséquence, une épidémie mondiale de myopie mais aussi un vieillissement accéléré de la colonne vertébrale à cause des flexions cervicales pour regarder son écran. Et puis les enfants sont impactés par le smartphone des parents, qui agit comme un mur auditif, dit le rapport, ralentissant l'acquisition du langage. Conclusion, il faut sanctuariser la chambre et les repas, interdire tout écran avant 3 ans et renoncer au smartphone avant 15 ans.
Du monde sur la route aujourd'hui, début d'un long week-end de Pentecôte, c'est rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours, avec des ZFE sur votre trajet peut-être, rétabli par le Conseil constitutionnel qui annule la suppression de ces zones visant à lutter contre les voitures polluantes. Et pour rouler propre, pourquoi ne pas vous offrir une 2 chevaux? Le groupe Stellantis va ressusciter ce modèle mythique de Citroën en version électrique à moins de 15 000 euros, sortie prévue pour 2028, 80 ans après sa création. C'est l'événement ce soir sur RMC 21h. La grande finale de la Coupe de France. D'un côté Nice menacé de relégation, de l'autre le Dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Lens, grand favori de cette finale au Stade de France. Des milliers de supporters lensois ont fait le déplacement pour l'occasion avec l'espoir de soulever le trophée pour la première fois de leur histoire, Jean Baumel.
Oui, le Stade de France sera aux couleurs sang et or. Plus de 50 000 supporters lensois sont attendus à Saint-Denis et ils espèrent vivre un grand moment.
La finale de Coupe de France, ça me fait vraiment plaisir et j'espère avoir la chance de pouvoir vivre toute l'émotion de cette victoire.
Normalement, c'est victoire. Contre Nice, là, avec les problèmes qu'ils ont, normalement, c'est victoire vendredi. Il n'y a pas de choix, là.
Avec cet énorme soutien populaire, le milieu de terrain Adrien Thomasson ne pense qu'à récompenser ses supporters.
On espère, nous, sur le terrain, faire le nécessaire parce que avec autant de public, autant de gens qui vont nous soutenir, que ce soit à Lens ou ici au Stade de France, on aura à cœur de leur rendre cette confiance.
Après une deuxième place en Ligue 1 et une qualification pour la Ligue des Champions, l'entraîneur lensois Pierre Sage voudrait donner un titre au peuple lensois.
On a aussi le devoir de représenter tout un peuple, toute une histoire qui jusqu'à maintenant n'est pas aboutie dans cette compétition. Donc on a la volonté de porter haut et fort nos couleurs pour justement réparer cette anomalie.
Pour sa quatrième finale de Coupe de France de son histoire, Lens espère enfin la gagner et faire la fête toute la nuit.
Lens Nice, 21h ce soir sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. Des aides pour les profs. Les profs aussi vont être aidés. Aide carburant pour les professeurs remplaçants, notamment ceux qui ont besoin de leur voiture. Bonjour Edouard Geffray.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes le ministre de l'Éducation nationale. Je vous interroge évidemment sur cette aide. Et puis on reviendra sur le film, sur les derniers jours de Samuel Paty. Le film et avant cela le procès de ceux qui avaient participé à l'engrenage. La position de l'Éducation nationale là-dessus, vous nous la donnez dans un instant. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques secondes, il est 7h08.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Il y aura des aides pour les profs. Bonjour Edouard Geffray.
Bonjour.
Vous êtes le ministre de l'Éducation nationale. Les professeurs remplaçants vont donc être amenés, eux, tout comme les AESH qui roulent beaucoup, à être aidés. Pourquoi seulement eux et pas le reste des profs qui, pour certains, aussi prennent leur voiture?
Alors, c'est tous ceux qui bénéficient de ce qu'on appelle des indemnités kilométriques. Très concrètement, c'est-à-dire des gens qui, des collègues, qui en fait, pour aller d'un point à un autre au titre de leur profession, sont obligés d'utiliser leur véhicule personnel. Donc c'est effectivement les professeurs remplaçants, ce sont les inspecteurs, ce sont aussi par exemple les professeurs qui vont devoir se déplacer plus loin que d'habitude pour le baccalauréat. Donc tous les examinateurs du bac qui vont aller dans d'autres établissements que leur établissement habituel vont pouvoir en bénéficier, ce qui est logique à mon sens.
Donc ça s'applique de manière immédiate, puisque si ça s'applique pour le bac, c'est...
Le 1er juin, c'est une revalorisation temporaire du 1er juin jusqu'au 31 décembre.
Donc, il n'y aura pas ensuite d'élargissement aux autres profs qui, pour certains, peuvent vous dire « Écoutez, moi, je roule beaucoup pour aller à mon établissement » ou... Non, ça n'a pas vocation à s'élargir davantage.
Parce que simplement, on a un outil qui s'appelle l'indemnité kilométrique et qui indemnise précisément ce type de déplacement. Et donc, c'est ça qui est revalorisé à hauteur de 20 centimes d'euros par litre de carburant à peu près.
Edouard Geffray, je le disais, vous êtes le ministre de l'Éducation nationale. Il y a ce film L'Abandon, on va y revenir, qui revient sur les derniers jours de la vie de Samuel Paty et l'engrenage qui a conduit à sa mort. Avant cela, il y avait eu le procès en appel de Samuel Paty. Et le verdict avait été rendu en mars dernier. Vous vouliez revenir également, lorsqu'on a préparé cette interview, vous avez dit à mon équipe qu'il y avait eu des propos de l'avocat qui, à l'époque, vous semblaient inadmissibles. Ça veut dire que vous faites référence sans doute aux propos de maître Francis Villemain, l'avocat du prédicateur Abdelhakim Sefrioui. Les mots exacts qui avaient été utilisés par l'avocat, c'était, je cite, Samuel Paty procédait à la discrimination des élèves musulmans. Il l'avait dit lors de l'ouverture de ce procès. Au nom de l'Éducation nationale, aujourd'hui, vous dites quoi?
Alors d'abord, tout ce qui s'est passé dans le prétoire relève du prétoire. C'est-à-dire qu'un avocat peut dire quasiment tout ce qu'il veut à l'intérieur du tribunal et devant un juge. Et ça, il n'y a pas de problème et ce n'est pas discutable. En revanche, j'ai une question effectivement déontologique sur ce qu'a dit cet avocat à la télévision, à la presse, donc dans l'espace public. Puisque vous savez que
en marge du procès.
En marge du procès, donc tout à fait, c'est deux choses différentes. Il y a la stratégie de défense au procès, qu'il ne faut pas toucher. Et puis, est-ce qu'il a dit de manière assez véhémente, et qui objectivement, je crois, a heurté beaucoup de collègues de la communauté éducative, parce qu'il a clairement sali la mémoire de Samuel Paty. Et il se trouve que dans le code de déontologie des avocats, il y a ce qu'on appelle un devoir de délicatesse et de courtoisie, de mémoire, de modération, à l'extérieur du prétoire. Et donc, effectivement, j'ai souhaité saisir le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris de la question déontologique, puisque vous savez que les avocats sont une profession réglementée, donc c'est à eux d'examiner la question. Les avocats eux-mêmes, d'ailleurs, étaient très divisés au moment où c'est passé, certains disant... Là, quand même, on est quand même un peu au-delà du cadre habituel de l'expression déontologique d'un avocat. Et donc, j'ai souhaité que les avocats, entre eux, puissent se poser la question de savoir si ces propos étaient finalement déontologiques.
Donc, vous nous annoncez ce matin, monsieur le ministre, que vous saisissez le bâtonnier du barreau de Paris de ses propos.
J'ai effectivement signalé ses propos au bâtonnier de Paris en lui faisant part de mes interrogations au regard du code de déontologie des avocats.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement, vous estimez que maître Francis Vuillemin pourrait être sanctionné par ses pairs ?
Ça, c'est pas moi de le dire, c'est au Conseil d'ordre des avocats. Mais en revanche, je considère que les propos qu'il a tenus ont été suffisamment choquants et pour les professeurs et pour une partie de ses confrères pour que le Conseil d'ordre des avocats se penche et se pose la question. On est vraiment dans la zone grise, mais je trouve que vu l'ampleur du débat et vu ce que ça a, vu la façon dont ça a été vécu par l'institution, ça valait la peine d'avoir la question qui soit posée.
Le film, L'abandon, pour vous, il doit être montré aux collégiens, aux lycéens?
Moi, je pense que le film L'abandon, d'abord, je l'ai vu. Et je pense que c'est un film qui est objectivement d'intérêt public pour les Français. Y compris parce que je trouve qu'il est en fait dans un ton assez juste. Il relate les faits de manière très linéaire, très à plat. Il pointe pas tel ou tel, il relate les faits. Je suis pas partisan de l'obligation. C'est-à-dire que je crois pas qu'il faille obliger les professeurs à aller voir, ni les élèves. Moi, j'ai croisé des professeurs qui avaient envie de le voir, d'autres qui m'ont dit « je ne serais pas capable de le voir ». Je ne vais pas forcer qui que ce soit à y aller. Mais que collectivement, on se dise, compte tenu une fois encore de l'impact que ça a eu, collectif, dans notre société, que c'est utile d'y aller, ça, je crois que oui, effectivement.
Donc, vous ne vous prononcez pas sur le fait qu'il soit présenté aux élèves ?
Moi, je pense qu'il peut être présenté aux élèves. Il y aura d'ailleurs un dossier pédagogique qui va être fait. Mais en revanche, je ne souhaite pas imposer aux professeurs d'emmener leurs élèves le voir. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle la liberté pédagogique. C'est une autre caractéristique fondamentale de notre institution. Donc c'est à chaque professeur de voir s'il le souhaite. En revanche, on mettra à disposition des professeurs qui le souhaiteraient un dossier pédagogique pour les aider tout simplement à entrer dans ce film avec leurs élèves. Je rappelle que beaucoup d'élèves, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui iront voir ce film étaient trop jeunes à l'époque.
Ça veut dire, monsieur le ministre, ça veut dire que vous laissez la liberté, comme vous dites, mais vous laissez aussi dans ce cas-là la responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'est pas... alors, j'allais pas dire abandonné, parce qu'évidemment, je vais pas reprendre le mot le titre du film, mais au fond, en disant ils ont la liberté de le faire, ça veut dire aussi que vous allez mettre en première ligne à nouveau des professeurs qui, pour certains, parce qu'ils auront décidé de le montrer, vont pouvoir potentiellement être considérés comme responsables, devoir se justifier. Voilà, ils vont devoir se justifier de présenter ce film.
Alors, non, personne n'aura à se justifier, parce que précisément, ce qu'on dit, c'est que c'est un film qui a suffisamment... C'est un film qui porte sur des faits qui ont suffisamment ébranlé l'institution pour qu'un professeur soit évidemment en droit total de le montrer. En revanche, je ne me vois pas dire à un professeur « vous êtes obligé d'y aller à votre classe ». Ça n'aurait objectivement
aucun sens. Oui, mais vous comprenez bien que ça veut dire qu'il va devoir justifier auprès de ses élèves de le présenter.
Non, puisque précisément l'institution considère que c'est un film qui est parfaitement montrable, et que c'est même d'intérêt public de le montrer.
Vous avez entendu peut-être les propos, notamment de cet influenceur à la sortie du film à Cannes, Raphaël Garcia, et cet échange avec un jeune homme qui regardait le film, c'est beaucoup passé sur les réseaux sociaux, qui accusait ce film d'être contre les musulmans, de donner une mauvaise image, disait-il, des musulmans.
Écoutez, on l'a vu à plusieurs avec mon équipe, aucun d'entre nous n'est ressorti avec un quelconque sentiment de cette nature. Et moi, ce que j'ai vu à Cannes, c'est 2400 personnes debout, les larmes aux yeux, applaudir pendant l'intégralité du générique. En tout cas, c'est ce que j'ai vu à distance. Mais c'est plutôt ça que je retiens.
Merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Édouard Geffray, vous êtes donc ministre de l'Éducation nationale. Vous venez de nous annoncer que vous avez saisi donc le bâtonnier de Paris après les propos de maître Vuillemin qui accusait Samuel Paty d'avoir procédé à de la discrimination envers les élèves musulmans. Il est 7h19 sur RMC et Arthur Chevalier vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, Emmanuel Macron a pris la parole hier à l'Élysée. Écoutez.
Le silence, voire l'indifférence que nous maintenons depuis près de deux siècles à l'égard de ce code noir, n'est pas un oubli, mais est devenu une forme d'offense.
Le code noir, de quoi s'agit-il, Arthur ?
Eh bien, c'est un texte qui régit l'esclavage dans les îles françaises, un texte honteux, jamais aboli officiellement.
Et vous nous le racontez dans un instant. Il est 7h20, on se retrouve donc dans 50 secondes. Ne manquez pas aussi Arnaud Demange qui arrive pour pirater le face-à-face. Mon invité ce matin, c'est Marine Le Pen.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Arthur, hier soir, Emmanuel Macron s'est prononcé en faveur de l'abrogation du tristement célèbre Code Noir.
Mais oui, un geste fort du président, car un vote aura lieu jeudi prochain à l'Assemblée, justement pour abroger ce Code Noir. Même si en France, l'esclavage a été aboli en 1848, ce code est encore formellement en vigueur. Pour Emmanuel Macron, je cite, « son maintien pendant toutes ces années est une trahison de ce qu'est la République ». Alors bien sûr, juridiquement, cette abrogation ne changera rien puisqu'il n'y a plus d'esclaves depuis longtemps. Mais c'est un acte symbolique qui a une très grande importance.
Le Code Noir, à l'origine, qu'est-ce que c'est ?
Alors, à l'origine, c'est un texte conçu à la fin du XVIIe siècle, sous le règne du roi Louis XIV. À cette époque, la France a déjà colonisé des îles, notamment la Martinique et la Guadeloupe. C'est dans ces îles qu'on pratiquait l'esclavage des Noirs. Mais alors attention, parce que pour comprendre cette histoire, il y a autre chose à retenir. L'esclavage était autorisé sur les îles françaises, mais pas en métropole, hein, dans l'Hexagone, si vous préférez. Il y avait donc deux situations légales différentes pour un seul et même État.
Et c'est pour ça qu'on a écrit le Code Noir ?
En partie, le Code Noir, c'était une compilation de règlements pour les îles. La personne qui a dirigé la rédaction de ce code, c'est Colbert, l'équivalent du Premier ministre du roi Louis XIV. Sauf que Colbert va mourir avant de le terminer, c'est donc son fils qui va le finir en 1685. Alors à cette date, ça ne s'appelle pas le Code Noir, hein. On lui donne ce nom après, ça s'appelle l'ordonnance de 1685.
Qu'est-ce qu'on trouve dans ce Code Noir ?
Alors la première chose, évidemment, c'est qu'il autorisait l'esclavage dans les colonies. Ensuite, c'était des règles relatives au commerce et au traitement des esclaves. D'après ce code, les esclaves étaient des sortes d'objets qui pouvaient être vendus, achetés ou donnés. Ce règlement autorisait aussi les châtiments corporels, qui allaient du fouet à la peine de mort, en passant par les oreilles coupées et des tonnes d'autres punitions inhumaines. Ce texte était aussi fait pour imposer le pouvoir royal dans les colonies, donc il y avait des dispositions qui ne concernaient pas l'esclavage, mais l'organisation dans l'administration en général.
Le Code Noir, il donnait aussi des pouvoirs aux propriétaires d'esclaves ?
Alors oui, les colons, alors ils avaient aussi des devoirs. Les colons devaient nourrir et vêtir correctement leurs esclaves. La torture et les abus sexuels étaient interdits. Alors attention, hein, ça c'est le principe, car il faut bien admettre que les principes étaient très très rarement appliqués. Je précise que ces dispositions ne retirent évidemment rien à la monstruosité de la chose.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Une chronique qu'on peut retrouver à tout moment en podcast sur le site et l'application d'RMC. C'est l'heure d'Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et bonjour.
Bonjour.
Bonjour Arnaud. À 8h25 tout à l'heure, de 8h25 jusqu'à 9h d'ailleurs, mon invité dans le face-à-face, ce sera la chef des députés RN à l'Assemblée et candidate à l'élection présidentielle, Marine Le Pen.
Oula. Ouh là là, attention, gros dossier, faudra être concentré pendant l'interview à Pau, hein. Parce que bon, quand c'est Gilles qui appelle le vendredi, ça va, c'est quasiment le week-end, quoi. Vous pouvez l'envoyer sur les Alaouites du secteur ouest de Téhéran et hop,
ça déroule.
Ouais, il part en roue libre pendant 20 minutes, on peut penser à autre chose pendant le face-à-face, c'est assez cool et tout. Mais là, attention, Marine Le Pen, elle démarre donc sa tournée d'adieu en tant que candidate à la présidentielle. C'est comme Aznavour ou Johnny. Alors si vous êtes fan, notez les dates car Marine sera le 24 à Europe 1, le 26 à France Inter, le 28 sur CNews, le 30 dans Okapi, le 1er juin dans Motojournal, le 3 au Meilleur Pâtissier, avant de finir la tournée en apothéose le 7 juillet sur BFM TV, chez nous, pour son grand concert d'adieu. Et Marine Le Pen est condamnée par la justice, elle ne sera pas candidate. On l'écoute réagir. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Le monde est petit, profitons-en. Marine sera remplacée, ou serait remplacée, par Jordan Bardella. Alors Jordan, qui subit en ce moment un truc, il est éclaboussé par un scandale qui touche la famille de sa compagne, Maria Carolina des Deux Siciles, des Trois Cafés Gourmands et des Quatre Fromages. La famille de Bourbon des Deux Siciles est accusée de corruption et de détournement d'œuvres d'art par un média belge. Bon, au moins, on sait que Bardella n'est pas dans le coup, vu qu'il a jamais mis les pieds à Bruxelles. Et pourtant, il est député européen. On l'oublie, hein, on l'oublie. Et bien, lui aussi. Le RN, à ce sujet, peine à trouver des banques françaises pour financer sa campagne présidentielle. C'est sûr que si c'est Jordan qui prend les rendez-vous au Crédit Agricole, ils vont galérer à avoir un prêt, hein. Très bien, alors comme travail, je vois que vous êtes député européen. Ah bon ? Concentre-toi, Jordan. Non, c'est pas Edwige Chevrillon, mais j'ai pas 50 000 voix.
La voix banque.
C'est la voix bancaire. Dans le jeu. Du coup, ça m'a flingué ma vanne. C'est pas grave. Mais celle d'après, on rigole quand même. Comment ils pourraient financer leur campagne? Ils vont quand même pas demander à un dictateur africain.
Non. Ouais, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes.
Hein. Et oui, ils ont eu des problèmes. Et puis Bardella en Afrique, il ferait des gaffes. Il ferait oh là là, il y a beaucoup d'étrangers dans votre pays. Je pensais que chez nous, il y en avait plein, mais vous, c'est l'invasion. Bon, monsieur le vigile, vous pouvez dire au président que je suis arrivé? C'est moi le président. Oh, pardon, désolé. Et après, il va finir par aller demander à Trump. Oh, je suis déçu, Jordan, tu es venu sans ta fiancée, Maria des deux chevaux et des quatre fantastiques. Elle est tellement jolie. So nice, j'aurais aimé la rencontrer. Elle est un peu vieille pour moi, elle a déjà 22 ans. Mais quand on l'écoute parler, on dirait qu'elle en a 12, j'adore, ça rappelle des souvenirs. Et puis enfin, notez que si Marine Le Pen va en prison, elle pourra sortir un livre. Et si elle en vend autant que Nicolas Sarkozy, il y aura quand même de quoi financer un meeting ou deux. Ça se termine bien cette affaire. Rendez-vous avec Marine Le Pen à 8h25.
Et avec vos questions, vous n'hésitez pas, vous nous les envoyez, vos questions à Marine Le Pen au 3216 ou sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424. Arnaud, on vous retrouve à 8h15. Et puis tiens, à 7h27, c'est le moment de jouer. C'est le moment de jouer, mais oui, c'est le moment de jouer et de gagner, parce qu'il reste à gagner un vidéoprojecteur, un maillot des Bleus, un ballon officiel, une boîte Lego de trophée. Ça, c'est pour le pack Coupe du Monde. Mais il y a encore un baby, il y a même un chèque de 10 000 euros, tiens, qui est encore caché. Mais oui, Mathieu, dans le dans la sélection des Bleus. Bref, vous envoyez tout de suite liste au 7-32-16. Il y a plein de cadeaux. Liste au 7-32-16. Liste au 7-32-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Il est 7h27. À tout de suite pour la météo du journal. Il est 7h30 et il fait très beau, très chaud.
Et il va faire même de plus en plus chaud. Alors le beau temps, oui, c'est du soleil, absolument pour tout le monde. Toute la journée, du ciel bleu. Les températures qui grimpent, on atteint déjà les 17-18 degrés sur le sud-ouest ce matin. Cet après-midi, on pourra avoir des pointes jusqu'à 35 degrés en Aquitaine. Il fera un petit 24 degrés à Nice, c'est là qu'il fera le moins chaud. On aura 26 à Lille, à Montpellier, 27 à Marseille, Brest, 29 pour Paris, 30 à Lyon ou Nantes, 32 à Toulouse, 33 pour Bordeaux et Biarritz. Et il fera encore plus chaud dans les prochains jours, notamment le pic attendu lundi, qui devrait être la plus chaude journée d'un mois de mai jamais vue pour l'instant en France.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Porcher. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Ils ont seulement 16 à 18 ans. Quatre adolescents ont passé la nuit en garde à vue près de Lyon, soupçonnés d'être à l'origine d'un incendie mortel sur fond de trafic de drogue. Des aides carburants élargies, doublées et prolongées, mais des taxis, des dépanneurs, des infirmiers qui se sentent toujours délaissés. Et puis mise en place, supprimée et désormais définitivement rétablie. Depuis hier, on reviendra sur le retour des ZFE, ces zones interdites aux véhicules les plus polluants.
Leur âge choque particulièrement. Ce sont quatre adolescents qui se réveillent en garde à vue ce matin.
Une dizaine de jours après un incendie mortel à Décines, près de Lyon, le dernier étage d'un immeuble parti en fumée, tuant trois personnes. Enquête ouverte pour homicide volontaire en bande organisée. Clara Gabillet avec nous en direct. Clara, sur les quatre gardés à vue, deux sont mineurs.
Oui, les interpellés sont très jeunes, entre 16 et 18 ans, précise le procureur. Ils ont été arrêtés hier en région lyonnaise, soupçonnés chacun d'être impliqué à des degrés divers dans cet incendie criminel. C'était il y a 10 jours dans un immeuble de la banlieue de Lyon, quartier populaire de Décines, tout près du stade de l'Olympique Lyonnais. Le procureur indique que la thèse du règlement de compte est une piste sérieuse. Pourtant, aucune des trois victimes ni leur entourage n'était connue de la justice. Un homme de 28 ans et sa tante de 61 ans. Leur corps découvert dans un appartement du dernier étage, celui d'un autre homme de 28 ans, avait lui été retrouvé au pied de l'immeuble. Il s'était jeté par la fenêtre pour échapper aux flammes.
Les précisions de Clara Gabillet pour RMC. Un blessé entre la vie et la mort, quatre autres en urgence absolue et 64 interpellations. C'est le lourd bilan, selon une source policière à RMC, des affrontements au bord du canal Saint-Martin qui ont eu lieu cette nuit à Paris. Des supporters niçois impliqués à quelques heures de la finale de la Coupe de France de foot. Lens-Nice, ce sera au Stade de France. Tous les détails dans le journal de 8h. Nouveau montant, nouveaux travailleurs concernés et nouveaux déçus. Les aides carburants annoncées hier n'ont pas convaincu. On fait le point. Le coup de pouce pour les gros rouleurs. couleur passe de 50 à 100 euros. Il est prolongé jusqu'à fin août, comme celui pour les agriculteurs, les transporteurs, les pêcheurs ou encore le BTP. Une liste de secteurs qui s'allonge, les aides à domicile ou encore certains fonctionnaires comme les profs remplaçants l'intègrent. Ce n'est pas le cas de tout le monde et les absences s'estiment laissées sur le carreau, Antonin Audion.
Infirmier depuis 5 ans dans les alentours de Nancy, Pierre fait plus de 100 km par jour et avec les prix des carburants, il doit déjà refuser des patients.
Une prise de sang pour moi aujourd'hui, c'est un déplacement pour aller au laboratoire, prendre le boîtier pour la prise de sang, un autre déplacement du laboratoire chez le patient, faire la prise de sang, revenir au laboratoire déposer ma prise de sang. Pour tout ça, j'ai 4 euros net.
Et pourtant,
on n'est même pas cité, on n'a aucune considération.
Même déception chez les dépanneurs, Luc Le Baron doit chaque semaine faire le plein des 7 camions de son entreprise.
On est passé encore à côté. Il y a un ras-le-bol qui est bien là, puisque les dépanneurs ont l'impression vraiment qu'ils sont à chaque fois oubliés, qu'on ne reconnaît pas leur utilité. Et c'est bien dommage.
Les chauffeurs de taxi, quant à eux, bénéficient d'une aide allant jusqu'à 5500 euros pour l'achat d'un véhicule électrique. Mais ce n'est pas du tout ce qu'espérait Dominique Buisson, secrétaire général de la Fédération nationale des taxis.
Nous changeons nos véhicules tous les 3 ans. Si le véhicule a été changé récemment, on ne va pas le changer comme ça, juste parce qu'on nous fait une offre.
Point commun entre ces 3 secteurs, ils réclament tous une baisse des prix des carburants directement à la pompe.
Mais pour ça, le Premier ministre refuse, par exemple, toujours de baisser les taxes, comme le réclame entre autres le Rassemblement national. Notez enfin que les entreprises qui le peuvent ont désormais la possibilité de verser à leurs salariés une prime carburant jusqu'à 600 euros exonérée de cotisations sociales. Toujours sur la route, et cette loi de simplification qui n'a jamais aussi mal porté son nom. Hier, le Conseil constitutionnel a rétabli les ZFE, ces zones interdites aux véhicules les plus polluants. Elles avaient été supprimées lors du vote de cette loi. Mais donc, Cyprien Pézeril, ce qu'ont fait les sages hier, attention, faut suivre, c'est supprimer cette suppression.
Oui, la circulation reste interdite pour les véhicules les plus polluants dans 25 ZFE, zones à faible émission. Les règles ne sont pas toujours les mêmes entre voitures et utilitaires et varient aussi selon les agglomérations. Tout dépend de votre fameuse vignette critère. Presque aucune interdiction à Nantes, Lille ou Bordeaux, mais à Paris, Lyon ou Montpellier, c'est beaucoup plus restrictif. Les voitures critères 5, 4 et 3 n'ont pas le droit de rouler. La législation, donc, ne change pas. Et avec cette décision du Conseil constitutionnel, près de 3 millions de véhicules doivent toujours rester au garage. Pour les sages, cette disposition est un cavalier législatif, en clair, comme un objet rangé dans le mauvais placard. Victoire, crient les écologistes. Scandale, réagit le RN qui dénonce un mépris du Parlement et promet de supprimer une fois pour toutes les ZFE en cas de victoire à la présidentielle.
Cyprien Pézeril du service politique de RMC. Le livret A poursuit sa chute vertigineuse. Chiffre publié ce matin par la Caisse des dépôts. Les Français ont retiré 1,28 milliard d'euros de ce plan d'épargne en avril. C'est le pire mois d'avril depuis 17 ans. Soit depuis que les données sont compilées. Gaël Monfils fête son dernier Roland-Garros. Début du premier tour demain, le tennisman de 39 ans, coqueluche du tennis français, aborde son ultime tournoi du Grand Chelem parisien et il a tenu à marquer le coup en organisant une grande soirée sur les courts Porte d'Auteuil, Maria Azé.
Ils étaient près de 15 000 sur le cours central, t-shirt à l'effigie de la légende du tennis français.
Dans le dos, on a noté les matchs qui nous ont le plus marqué, qui ont créé un amour inconditionnel pour Gaël.
Il a suivi toute notre vie en fait, et là on se rend compte que c'est son dernier Roland-Garros. C'est lui qui nous faisait lever du canapé, gueuler devant notre télé.
Au programme, un tournoi de double choisi par le public parmi un casting XXL. Gaël Monfils en double avec sa femme Elina Svitolina a un objectif.
J'ai jamais battu Novak et c'est peut-être aujourd'hui.
Dans une ambiance électrique, les Monfils remportent le tournoi puis vient le temps des hommages. Son ancien coéquipier Joe Wilfried Tsonga.
Je suis fier de lui, non seulement parce que ça a été un beau joueur de tennis, mais aussi parce qu'aujourd'hui c'est un papa. On habite à 1 km l'un de l'autre. Donc je t'aime mon frère.
Gaël Monfils conclut sa soirée très ému.
Vous avez été nombreux pendant plein d'années. J'ai pas été assez fort pour gagner un grand chelem, mais j'ai peut-être gagné plus. Et je sais que c'est pas aujourd'hui. Les remerciements et tout ça, c'est après le match que j'aurai gagné, j'espère.
Lundi, le joueur de 39 ans affrontera le Français Hugo Gaston et tentera de faire durer un maximum de temps ce dernier Roland-Garros.
Et il y a eu du lourd pour les Français lors du tirage au sort de ce tableau principal. Loïs Boisson hérite de la 22e mondiale. Kalinskaya, Giovanni Mpechipe et Richard tombent sur Novak Djokovic et Benjamin Bonzi sur le numéro 2, l'Allemand Zverev.
Et puis le quintet.
C'est à Vincennes aujourd'hui, départ à 20h15, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le 8, Yanko Ofor, son outsider, le numéro 6. Gisou détend le 8 et le 6.
C'était
le
journal de Victor Pourchet, il est 7h37. Tiens, au 32-16, il y a Aurélie qui nous appelle de Mayenne. Bonjour Aurélie.
Oui, bonjour.
Aurélie, vous êtes prof. Il y avait votre ministre de tutelle qui était mon invité à 7h10 pour défendre les aides pour les professeurs remplaçants. Enfin bref, doublement donc des indemnités kilométriques. Comment vous réagissez-vous, Aurélie ?
Ben, tant mieux. Mais quand ? Voilà, à partir de quand et quand va-t-on être défrayé régulièrement de nos frais de déplacement ? C'est ça le problème.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas prof remplaçante, vous êtes prof tout court ?
Non, moi je suis prof remplaçant, je suis professeur contractuel en CDI.
D'accord.
Après 85 CDD dans l'éducation nationale, j'ai été CDIsée au bout de 7 ans. Logique.
D'accord, c'est une mythe, ouais.
Donc, là je viens d'être défrayée de mes frais de mars parce que j'ai fait intervenir les syndicats. Parce que personne ne me répondait. Et en fait, ça devient un problème parce que moi, je fais une boucle de 200 km trois fois par semaine pour travailler.
D'accord.
Ce qui représente, avec les frais d'entretien du véhicule, les frais de carburant, quasiment un tiers de mon salaire.
Mais oui.
Voilà. Donc,
non, mais attendez. Et donc, vous devez les avancer et vous êtes. Enfin, et c'est un peu au petit bonheur de la chance de savoir quand est-ce que vous allez être remboursé, quoi.
C'est cela. C'est-à-dire que quand on accepte une mission en septembre, on sait pertinemment que nos frais de
remboursement ne seront remboursés.
Les déplacements commenceront à être payés qu'au mois de janvier.
C'est un frais réel ou c'est une indemnité kilométrique ?
C'est une indemnité kilométrique.
Ok, donc c'est bien ce qu'évoquait donc le ministre, elle va être doublée. Le problème, c'est que vous dites il y a un vrai problème ensuite de fluidité et d'efficacité, c'est-à-dire que vous êtes obligé. Là, en ce moment, ça veut dire que vous devez sortir quand même beaucoup d'argent.
Je sors une moyenne de 500 à 550 euros par mois pour travailler.
C'est du délire. Donc effectivement, pour vous, cette aide, elle sera la bienvenue si vous la touchez. Et quand vous la toucherez.
Voilà, c'est ça le problème. Quand ?
Merci beaucoup Aurélie de votre témoignage et on le voit bien et d'ailleurs au-delà de votre témoignage à vous Aurélie, hein, c'est aussi la question de l'efficacité réelle de ces aides, c'est-à-dire qu'il y a les annonces mais pour l'instant je crois que la plupart des guichets, y compris des aides qui avaient été annoncées déjà il y a 2 mois, ne sont toujours pas ouverts. En effet l'argent sonnant et trébuchant, il n'est pas encore tout à fait dans votre portefeuille. Il est 7h39 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Le Racing Club de Lens en finale de la Coupe de France ce soir contre Nice. Bonjour Jean-Christophe Demarais. Vous êtes le président du groupe des supporters du RC Lens. 50 000 Lensois qui sont donc attendus ce soir au Stade de France. Vous y serez évidemment. Comment vous vous sentez là ? Allô ? Je crois que vous n'êtes pas avec nous, Jean-Christophe Demarais. Est-ce que vous êtes là ? Ah, c'est bien dommage. J'aurais vraiment aimé vous donner la parole parce que je sais que vous partez à 13h tout à l'heure en bus avec un certain nombre de supporters, évidemment, du Pas-de-Calais qui vont rejoindre Saint-Denis. C'est un match inouï.
Qui rejoignent 50 000 Niçois. Ils se retrouvent au milieu à Paris pour cette finale de Coupe de France qui fait rêver, j'imagine, les Lensois après une saison exceptionnelle. Inattendu, disons-le, ils terminent deuxième de Ligue 1 et ils sont en lice, en place pour gagner une Coupe de France. J'imagine l'ébullition lensoise ce matin.
Alors j'imagine carrément l'ébullition et une telle ébullition que malheureusement du coup
on a perdu le réseau.
On a perdu le réseau. Bon bah écoutez, en tout cas on voulait vraiment souligner ce moment extrêmement fort. Alors Jean-Christophe Demarais, en tout cas nous on ne vous entend pas, mais si vous nous entendez, on vous souhaite évidemment une très 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 belle journée. Elle va être très forte. Effectivement le départ d'un certain nombre de supporters. Ils sont 50 000 à être attendus ce soir dans le Stade de France. Et d'ailleurs, Lens-Nice, c'est à 21h, finale de la Coupe de France. À suivre en intégralité, bien sûr, sur RMC. Il est 7h45. Et le débat RMC, ce sera dans un instant. Débat RMC avec Charles Consigny, la voix de droite, Cécile Duflo, la voix de gauche. Ils rentrent tous les deux dans un instant dans ce studio. On va revenir évidemment sur ces aides. Sébastien Lecornu qui dit « On n'a pas fini de subir ». J'avoue que quand il dit ça comme ça, c'est pas forcément très encourageant. On a l'impression qu'on ne voit pas le bout du chemin. Est-ce que les aides qui ont été annoncées hier sont à la hauteur ? Comment faire pour aider effectivement face à la crise du carburant ? Cécile Duflo, Charles Consigny, c'est dans un instant le débat du vendredi sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Un petit
petit peu avant la Coupe du Monde.
C'est Shakira, sa chanson officielle qui a été publiée il y a quelques jours. RMC Radio officielle, vous le savez, de cette Coupe du Monde. Alors, ça y est, c'est la chanson de Shakira, c'est la chanson de la FIFA. On se disait, c'est parti pour un mois. Mais cette nuit, la star colombienne challengée par les plus jeunes, c'est Lisa de Blackpink, le groupe de K-pop que vous entendez, avec un autre titre, une autre chanson officielle, elle aussi, de la FIFA, une autre sélection et un titre tout aussi rythmé, avec aussi Anita que vous entendez. C'est une immense star au Brésil, écoutez. Et avec aussi le Nigérian Rema. Fusion, en fait, K-pop, Afrobeat, musique latina. On a trois stars de trois continents qui seront réunis, paraît-il, Lisa, Anita et Rema, pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Ça approche, c'est sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le débat.
Et dans un instant, voix de droite, voix de gauche, le débat du vendredi, Cécile Duflot, Charles Consigny. Mais d'abord, on a des auditeurs qui ont des questions pour Marine Le Pen. Vous le savez, Marine Le Pen, elle est mon invitée pour un face-à-face exceptionnel tout à l'heure. On sera ensemble jusqu'à 9h. Mes questions, mais aussi les vôtres. Olivier, bonjour.
RMC. Oui, bonjour Apolline.
Olivier,
bonjour,
vous êtes transporteur dans le Pas-de-Calais. Vous aviez une question, vous, pour Marine Le Pen?
Oui, alors c'est une question, je me demande pourquoi les pouvoirs publics n'ont-ils pas anticipé depuis des décennies notre dépendance au pétrole, sachant les crises énergétiques que cela engendre. Les chocs pétroliers ne sont pas d'aujourd'hui, ne sont pas nouveaux, ça a commencé dès les années 70, hein, je vais pas refaire l'histoire, et aujourd'hui...
Ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'a pas suffisamment anticipé?
Ah, totalement. Ça a commencé en 70 avec l'embargo de l'OPEP, ensuite la révolution iranienne en 79, la guerre Iran-Irak, etc., etc. Donc ça fait 30 ans qu'on aurait dû anticiper. On a des technocrates, qu'est-ce qu'ils font dans les ministères? Que font-ils depuis 30 ans? Là, on se réveille. C'est pas quand le bateau coule qu'on cherche son gilet de sauvetage. Alors on balance.
On aurait pu l'anticiper, vous voulez dire, le gilet de sauvetage, effectivement. Merci beaucoup, oui. Olivier. Je lui pose la question justement de notre dépendance, au pétrole. Pascal nous interroge également, il est agent de nettoyage, je note sa question. Je crois que Pascal, vous êtes agent de nettoyage à Bry-sur-Marne, c'est ça? Vous avez une question sur le handicap?
Oui, parce que je rencontre beaucoup de difficultés quand je vais faire mes courses sur les parkings de centres commerciaux. Et les amendes, ça ne pleut pas parce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont... des grosses voitures, des belles voitures qui se mettent sur les places handicap et nous on ne peut pas se garer parce que des fois on a des difficultés de marcher et du coup on va dans les places très éloignées quoi.
Qu'est-ce qu'elle fait pour les handicapés? Je lui pose la question aussi tout à l'heure. Il est 7h50, ils sont là, tous les deux, Charles Consigny et Cécile Duflot. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous l'avez écouté, Sébastien Lecornu, hier, qui dit on n'a pas fini de subir, mais qui promet des mesures, des aides, et notamment le doublement des indemnités kilométriques, 710 millions de coûts supplémentaires pour l'État de ces annonces hier. Mais on le sent bien, ça n'ira pas forcément plus loin. Est-ce que c'était mesurette ou est-ce que c'est une vraie bouffée d'air pour les plus précaires? Cécile?
C'est un peu sous la contrainte, mais ça résout pas du tout durablement le problème. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a un problème de dépendance aux énergies fossiles qui est important et que si on n'investit pas de manière très significative, d'ailleurs le montant qui avait été indiqué par RTE, c'est 94 milliards. Pour électrifier la France d'ici 2040, on va pas s'en sortir. Donc, choisir des mesures de court terme, ça aide quelques personnes, mais ça n'embarque pas la France dans l'avenir. Et si on veut embarquer dans la France dans l'avenir, alors la question de comment on finance cette transition se pose. Et là, il y a évidemment aucune réponse de la part du Premier ministre.
Charles?
Je pense que ce sont des rustines qui sont avant tout psychologiques, parce que avant que chacun aille demander son chèque, remplisse son formulaire, démontre qu'il fait bien le bon nombre de kilomètres, qu'il lui donne le droit à ça, qu'il a bien les ressources qui correspondent, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne demanderont pas tout simplement les aides en question.
Il l'espère, le Premier ministre, vous pensez, secrètement?
Je pense qu'ils s'en foutent, si vous voulez. Ils ont augmenté la dette de plus de 1500 milliards, donc que les gens la creusent encore de quelques millions ou pas, je pense que c'est pas son sujet. Et je crois d'ailleurs que il fait beaucoup de politique. J'ai écouté son intervention hier. Un coup, il a cité Pompidou, même plusieurs fois.
Arrêtons d'emmerder les Français.
À un autre moment, c'était le général de Gaulle. À un moment, c'était même la droite sociale de Séguin. Donc, il convoque comme ça quelques personnages, à mon sens, à des fins politique personnelle. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait baisser les taxes sur l'essence, tout simplement, comme l'ont fait une dizaine de pays européens. On ne peut pas le faire, pourquoi ? Parce qu'on ne réforme pas notre pays et qu'on dépense trop d'argent public. Et ça fait 10 ans qu'ils sont là, et en 10 ans, ils n'ont pas réformé ça.
Cécile Duflot ?
Il peut y avoir des pistes de réforme de l'État, ça c'est certain. En revanche, ce qui est sûr, c'est que là, on fait face à différents enjeux qui pèsent sur le budget des Français. L'essence, on l'a dit, le transport de façon générale, mais aussi le logement. C'est-à-dire que la pression et l'attention, et pourquoi effectivement le Premier ministre est obligé de faire des rustines, je suis d'accord avec le mot de Charles, c'est qu'il y a tout un tas de Français qui sont de plus en plus contraints sur leur budget.
Et est-ce que baisser les taxes aurait pu être une réponse ?
Là aussi, c'est une solution de court terme, parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, le prix de l'énergie va être rattrapé par la baisse des taxes, ça ne change rien. Le vrai chantier, c'est celui de la sobriété, parce que moins on dépense, moins on est dépendant. Donc il faut engager la France dans cette transformation-là, qui, en plus, va être utile pour les entreprises françaises, parce que ça nous permettra d'investir sur notre territoire, de pouvoir justement investir durablement. Et là, ce qui manque, et d'ailleurs, je pense que ce sera le plus gros échec, regardez avec l'histoire des 10 ans d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas du tout anticipé un monde dans lequel les ressources vont être plus rares, dans lequel les conséquences du changement climatique sur la vie quotidienne des Français, sur ce qu'on peut produire dans nos champs, sur l'état de nos maisons, il n'y a pas du tout travaillé. Donc en fait, ça a été vraiment que du court terme, avec une sorte de pensée magique, notamment sur le ruissellement, ce qui a eu comme autre effet, l'aggravation des inégalités. Donc cette situation-là, sur un terreau où les inégalités s'aggravent, c'est insupportable et c'est compréhensible.
L'électrification, c'est la solution, Charles ?
Oui, ça fait partie de la solution. Moi, je conduis bien sûr une voiture thermique et j'en suis très content.
Ça fait partie désormais.
Il y a un plaisir à conduire une voiture électrique, mais on y viendra peut-être quand même.
Faut gérer ces petits problèmes de libido, voilà, Charles, quand même.
Qu'est-ce qu'on répondait à ça, là, on est sur une logique carrément. Mais oui, en fait, c'est de la masculinité.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a pas de plaisir.
Qu'est-ce qu'on aurait dit si j'avais dit ça à une femme?
Avec moi, vous pouvez le dire. Pas de problème, Charles.
Je vois d'ici.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'aime pas conduire une voiture électrique.
Il n'y a pas de plaisir à conduire une voiture électrique.
Et quel est le plaisir à conduire une voiture thermique?
On entend un bruit de moteur, il se passe quelque chose, c'est agréable. Voilà, c'est comme ça. Je veux dire, je ne connais pas de voiture électrique agréable à conduire. C'est tout.
Donc c'est ça qui empêche. Mais c'est intéressant parce que c'est psychologique. Du coup, s'il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme vous, y compris des hommes qui dirigent, y compris des hommes au gouvernement, je comprends pourquoi on englue la France dans un truc totalement.
C'est une histoire d'homme, la voiture électrique
Imaginez si j'avais dit à une femme, arrêtez avec votre libido. Enfin, je serais viré dans l'instant de cette station.
Non, je ne crois pas.
C'est quand même marrant le deux poids deux mesures.
Parce que je pense que le rapport à la voiture.
Je suis comme le président.
Le rapport à la voiture, Charles, le rapport à la voiture, il est très intéressant parce que justement, et je l'ai vu, j'ai fait une chronique ici sur les voitures de fonction. Je crois que c'est la chronique qui a donné lieu au plus d'émotions des uns et des autres. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi, et vous êtes prisonnier à ce titre-là, on a chargé la voiture de tout un tas d'autres choses que juste sa fonction, transporter des gens. Ce qui fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui roulent dans Paris.
C'est comme toutes
avec
les choses. Il y a fauteuil, il n'a d'autre fonction que de vous y asseoir. Et pourtant, il y a des fauteuils qui coûtent 100 000 euros. Si vous voulez, ça n'a pas de sens que vous dites ça, c'est valable pour tout.
Pourquoi ? Parce que la conséquence des voitures, c'est pas du tout la même que la conséquence des fauteuils. Oui. Et notamment leur consommation. Donc on aboutit à des situations folles où devant nous, là, à Paris, roulent 1200 tonnes de ferraille qui transportent une personne alors qu'elles sont conçues pour transporter 5 personnes.
Mais plus personne n'a de voiture à Paris.
D'abord, ça n'est pas vrai. Et ensuite, ceux qui roulent avec des voitures et qui en sont aujourd'hui pas spécialement contents, mais qui n'ont pas le choix pour aller travailler, qui n'ont pas le choix que de remplir leur réservoir, ils sont coincés. Et ils sont coincés
justement parce qu'on ne pense pas à la transition. Vous nous accorderez quand même que ceux qui ont investi dans une voiture électrique, là, depuis 3 mois, ils sont quand même particulièrement contents.
Ah, mais sans doute. Mais en tout cas,
je ne sais pas s'ils prennent plaisir, mais en tout cas, je pense qu'ils sont très contents.
Les macronistes ont complètement loupé le coche de l'écologie alors qu'ils avaient fait Make Our Planet Great Again, etc. Ça, d'accord. Voilà. En revanche, je suis très amusé de voir que tout de suite la tristesse et la morale font irruption sur notre plateau dès qu'il est question de goût personnel. C'est-à-dire qu'il y a quand même à gauche une espèce de négationnisme de l'individu que je trouve très intéressante intellectuellement. On ne laisse pas les gens être eux-mêmes. On veut les amener à tout prix dans un collectif morne.
Alors, nous étions partis sur un débat sur les aides de Sébastien Lecornu. Nous savons basculer sur la question de l'individu ou du collectif. Cela dit, ça reste passionnant.
Et oui, parce que c'est ça le sujet, en fait. Le sujet,
sujet, c'est comment on réussit à embarquer tout notre pays face à des enjeux qui sont des enjeux qui sinon vont faire que plus personne n'aura de plaisir nulle part. C'est ça le problème. Mais non. Et justement, moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire par la contrainte. Et je trouve ça justement intéressant de comprendre pourquoi on reste englué dans un modèle qui nous étrangle.
On reprend la vendredi prochain.
Bientôt, on chronométrera les gens dans leur douche.
Et j'inviterai.
Il est 7h57. Je n'arriverai pas à les faire taire, mais promis, vendredi prochain, on revient à bientôt. On chronométrera les gens dans leur douche. 7h57 sur RMC. Dans un instant, ce sera la météo et le journal. Et Emmanuel Le Chypre qui nous rejoint. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.